présenter.
Bonjour, je m'appelle Tasnim Boukris, j'ai 30 ans.
Que t'est-il arrivé?
Au tout début, on m'avait dit que j'ai eu un AVC, accident vasculaire cérébral. Mais après, au bout de 2 ans, quand j'ai rechuté, je suis allée aux urgences. On m'avait dit que peut-être c'était pas un AVC, mais ils recherchent encore. Et après, au bout de quelques temps, ils m'ont dit que c'était pas un AVC, que c'était une maladie auto-immune.
Qu'as-tu ressenti?
Au tout début, je me suis dit que c'était pas très grave, que tout va bien, que je progressais. Je faisais encore kiné, orthophoniste. Et même orthophoniste, après, j'ai arrêté parce que je sais bien parler, écrire, lire, tout ça. Mais après, au bout de 2 ans, depuis ma deuxième maladie, c'est là que je me suis dit que ça sert à rien, tout ce que je fais, même... Prendre des choses par la main droite avant, oui, j'arrivais, mais maintenant, non. Alors, je me suis dit que c'est bon, ça sert à rien. Mais après, au bout de quelques temps, je me suis dit que c'est bon, je peux progresser, que je peux y arriver. Et voilà.
Quelle vie professionnelle avais-tu?
J'étais étudiante en économie et gestion à la deuxième année. En même temps, en fait, j'étais enceinte. Fin du cinquième, début sixième mois de grossesse, c'est là que j'ai fait une crise et on m'a emmenée aux urgences. On m'a mis dans un coma artificiel. Pendant 2 semaines, en même temps, ils m'ont fait une césarienne pour faire sortir le bébé.
Je lui demandais si ton bébé, il n'avait rien, quoi. À la naissance, il n'avait pas de séquelles, rien du tout, quoi.
Non, il n'a pas de séquelles, mais comme c'est un prématuré, très prématuré, il était très agité, très... voilà.
Bonjour, qu'est-ce qui a changé pour toi?
Avant, j'étais mariée, je vivais avec mon mari, et j'allais à la fac faire mes cours, les études, et en même temps, j'allais voir mes copines et à Grand Place. Voilà, une vie normale. Mais depuis, c'est complètement différent. J'ai juste kiné et de temps en temps venir ici au GEM, surtout à la radio. Et voilà, c'est tout. Sinon, j'étais chez moi... à faire autre chose, mais voilà.
Et dans tes rapports de maman avec ton petit garçon, comment ça se passe?
Au tout début, c'était difficile parce que il me reconnaissait pas, en fait. À chaque fois qu'il demandait de sortir avec sa tante ou peu importe, ou d'ouvrir l'ordinateur, il demandait à sa mamie, à ma mère, quoi. Mais pas moi. Oui, demander à ma petite sœur. Et je trouvais que c'était injuste qu'il fait ça. Je me suis dit que quand même, à chaque fois, j'engueulais ma mère ou ma petite sœur. Je leur dis, mais vraiment, il faut que ce soit moi, c'est à moi, c'est moi sa maman. Alors c'est moi qui lui donne l'autorisation. Après, avec le temps, ma mère, elle, ça va, elle lui dit, demande d'abord à ta mère. Mais ma petite sœur, elle continue, elle s'en fout. Elle sort avec lui. Voilà. Et moi, je suis là, quoi. Je sais même pas où il est. Je sais même pas pourquoi il est parti, avec qui. Et après, il n'y a qu'après, je le sais.
Ce que tu évoques là, c'est le problème qu'on rencontre tous de ceux qui veulent faire à notre place. Quand les gens veulent faire à notre place, forcément, nous sommes très pénalisés et ton petit garçon ne te reconnaissait pas pour sa maman.
Mais maintenant, ça va, il peut me demander l'autorisation de sortir ou de prendre l'ordinateur ou...
Comment ton mari vit ça, lui ?
Je n'en sais rien, parce qu'au tout début, il est resté avec moi. Même il allait me voir à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et en plus, il travaillait. Alors, il travaille. Et une fois qu'il a fini son travail, il allait à Saint-Hilaire-du-Touvet pour venir me voir. Au bout d'un an et demi, 2 ans, il m'a dit, c'est bon, je peux plus.
Et toi, est-ce qu'on peut savoir à quel degré tu es handicapé?
80%. Mais on parle de handicap invisible, toi. Est-ce que tu considères que tu as un handicap invisible?
Non, moi, non. Moi, ça se voit. Même au téléphone. Parce que je parle lentement et... Quand il y a des numéros à dire, je sais pas. J'arrive pas à m'en rappeler. Quand c'est des chiffres écrits, là c'est bon, je peux le dire. Mais quand c'est pas écrit, je peux pas. Mais aussi les heures, par exemple, de kiné et tout, c'est bon, j'arrive. Ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que c'est quelque chose de habituel, répétitif. Mais dès qu'il y a un changement, il faut le noter.
Quels sont les symptômes de ton handicap?
Avant la deuxième fois, j'avais une canne. Et une petite attelle jusqu'au genou. Et j'utilisais bien mes deux mains. Et tout allait bien, quoi. Je progressais très bien. Mais à la deuxième fois, je perds l'équilibre. Mon épaule, elle est baissée. Donc là... La kiné, elle me fait un massage du dos parce que mon dos, ça me fait mal. Et puis, j'ai une grande attelle jusqu'à la cuisse. Et voilà.
Si je comprends bien, c'est
l'immobilité de ton corps qui le fait se geler, se durcir et qui provoque des douleurs immenses.
Oui.
On disait que dans la vie quotidienne, tu te débrouilles toute seule ou t'as une auxiliaire?
Ben, en fait, ma mère, elle est. C'est mon auxiliaire de vie. J'arrive à m'habiller seule, à me doucher seule, mais c'est tout, quoi. Elle ramène mes vêtements dans la salle de bain et là, je fais tout toute seule. Mais après, une fois que tout est fini, c'est elle qui m'attache les cheveux, qui m'aide à mettre le foulard et aussi pour sortir, il faut qu'elle soit à côté de moi et pour manger aussi. Hein.
Est-ce que ta maman a été reconnue comme ton auxiliaire de vie officiellement par l'administration ou pas?
Au tout début, ils lui ont mis 4 heures par jour. Mais après, ils ont mis 2 heures par jour.
Ils ont réduit à 2 heures par jour.
Oui. Tout ça, c'est venu par Saint-Hilaire-du-Chouvet. Et ils lui ont dit que ça sera ta mère l'auxiliaire de vie. Et voilà quoi. Au tout début, c'était mon ex-mari qui était mon auxiliaire de vie. Mais après, quand tout a changé, c'est...
Ta maman qui est devenue ton auxiliaire de vie.
Oui.
Je comprends. Je comprends.
Est-ce que tu aimerais avoir un autre auxiliaire de vie qui ne soit pas de ta famille?
Oui, j'aimerais bien. Des fois, ouais, j'y pense. Mais des fois, je me dis que c'est bien comme ça. C'est même très bien comme ça, que ce soit ma mère.
Et c'est pas possible d'avoir à la fois ta mère et à la fois quelqu'un d'autre, quoi.
Non, c'est surtout... au tout début, j'aimais bien quand c'était ma mère. Mais après... je voulais me détacher, en fait. Comme me détacher et aller faire ma vie ailleurs. Mais je trouve que c'est impossible. Alors, voilà.
Oui, as-tu pensé à l'après? À ton avenir à l'après?
Oui. Au tout début... Il y avait ma sœur jumelle, elle m'a dit, ben, mais pourquoi pas, tu peux reprendre tes études ou en économie gestion comme tu étais avant, ou même pourquoi pas faire les langues ou ce que tu veux. Et au tout début, j'étais très contente. Je lui ai dit oui, pourquoi pas, ben, par correspondance. Mais après, j'ai vu que j'arrivais plus à... Enfin, tout ce qui est maths, déjà, je mettais de côté. Les statistiques, tout ça. Alors, l'économie gestion, à côté. C'est pas la peine. Elle m'a dit les langues, pourquoi pas les langues? Parce qu'avant, je connaissais bien l'anglais.
Tu étais bilingue?
Oui, enfin, des trois langues, l'arabe, l'anglais et le français. Mais après, j'ai juste en lisant un texte, en anglais, c'était impossible. Je faisais plein de fautes. Je comprenais pas la plupart des mots, je ne les comprenais pas. Alors je les ai laissés tomber. Mais même faire par exemple français arabe, ça aussi, non, voilà. Je ne peux pas. Alors,
est-ce que tu penses que tu serais capable d'apprendre des choses?
Oui, je crois que oui, mais il me faut beaucoup de temps.
Je me suis renseigné. Alors ça existe, oui, au CRLC, au centre des cérébraux lésés. Parce que là-bas, je fais une formation qui s'appelle l'aide médicale. C'est adaptation linguistique. Et on répète souvent les mêmes choses. Donc on reprend les cours de la fois d'avant. Donc ça, c'est très bien. Et j'invite Tassib à venir au CRLC parce que c'est une matière, c'est une chose à faire. On a des rendez-vous jusqu'au mois de juillet. Donc c'est tous les jeudis, de 9h30 jusqu'à 11h30 le matin. Et à chaque fois, on répète des choses. Donc ils nous donnent des choses à faire avec eux. On le fait. On se corrige entre nous. C'est un partage entre nous. Et on voit les différences qu'on a. L'avantage qu'on a à en tirer de ça, et c'est très bien, je trouve.
En fait, moi, j'ai eu un peu des difficultés similaires de lenteur. Et pour ça, j'ai fait des cours par correspondance avec un prof particulier ou une étudiante qui venait m'aider, qui était dans l'année avant moi et qui venait m'aider à réviser. Est-ce que ça pourrait pas t'aider?
Aussi, il y a l'âge, non?
Non. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge à faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont 55 ans qui le font, on a qui ont 20 ans qui le font, on a qui ont 18 ans qui le font, donc 40 ans qui le font, donc il n'y a pas d'âge. Est-ce que tes copains ont des difficultés à parler avec toi?
Non, c'est juste que avant ma maladie, j'avais des copines, voilà, pour sortir au cinéma, à Grand Place, voilà, aller en cours, tout ça. Mais maintenant, ça a réduit vraiment très très petit. J'ai juste deux copines et elles m'ont pas lâché, quoi.
Est-ce que les relations ont changé avec tes frères et sœurs? Ou c'est toujours resté à peu près la même chose?
Non. Justement, avant, j'étais vraiment cool avec mes petits frères et sœurs, ma sœur jumelle, vraiment. Et même quand il y en a deux qui se disputaient pour rien, je leur disais à chaque fois, « Oh, cool, c'est bon, il faut pas s'énerver pour rien. » Mais maintenant, ça y est, quoi. C'est moi-même qui m'énerve pour rien. Tellement je suis énervée, je me renferme dans ma chambre. Je veux pas, je veux rien écouter. Je voilà. Quand, avec le temps, ça va mieux. Je m'énerve de temps en temps, mais c'est pas comme avant. Ça va.
Et de quoi tu vis en fait au quotidien? Comment tu fais pour subvenir à tes besoins? Est-ce que c'est tes parents? Ou est-ce que tu as des aides ou autre?
Ben, je vis chez mes parents. Sinon, j'ai la AH. Ça.
Moi, j'avais une question. Comment ton fils vit ton handicap, en fait? Il le vit bien ou il s'en fiche un peu et il prend comme ça vient?
Ben, au tout début, il s'en fout. Complètement. Il aime bien partir. Ouais. Il aime bien partir avec ma petite sœur, faire des choses avec ma petite sœur, et puis voilà, quoi, ils s'en foutent. Mais après, avec le temps, petit à petit, ça va mieux, puisque il comprend mieux. Par exemple, je lui ai dit une fois, ça serait bien qu'on sorte, juste nous deux pour aller voyager. Après, il m'a dit, mais non, c'est impossible. C'est par rapport à l'équilibre, en fait, il m'avait dit, mais il avait bien compris ça.
Qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs pour qu'ils comprennent mieux les conséquences de ton handicap?
En fait, je voulais qu'ils comprennent que voilà, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe de quand. Et même quand on est étudiant ou même lycéen ou même né handicap, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Alors, il faut surtout pas baisser les bras, surtout pas... Peut-être qu'un jour, on arrive à progresser, à mieux faire les choses. Et surtout que moi-même, ça fait deux fois ma maladie, mais là, en voyant d'autres personnes, d'autres... handicap qui sont au contraire vraiment sur un fauteuil roulant et qu'ils arrivent même pas à parler, à utiliser ses mains. C'est ça, je me dis que par rapport à moi, ça va mieux. Moi, c'est beaucoup mieux même.
Je voulais savoir quel était ton rôle au sein du GEM et qu'est-ce que ça t'apporte, le GEM.
Moi, je suis secrétaire du GEM. Ben, je suis très contente. C'est ça qui est bien, parce que ça me valorise. Et enfin, je peux assister aux réunions. Et aussi à mettre le planning en place.
As-tu quelque chose à rajouter? Un message à faire passer.
Un message. Gardez espoir, voilà.